podcast de Radio Vatican.
La Catalogne veut organiser un référendum d'indépendance coûte que coûte. Le scrutin est prévu le 1er octobre malgré l'interdiction de la Cour constitutionnelle. La justice espagnole a déclaré la consultation anti-constitutionnelle. Et pour empêcher le vote, Madrid multiplie les opérations de police, les arrestations et les amendes contre les politiques et les organisateurs catalans. Pour autant, le gouvernement séparatiste catalan, présidé par Carles Puigdemont, compte bien concrétiser ce rêve d'indépendance déjà exprimé lors d'une consultation publique en 2014. Mais parmi les 7,5 millions d'habitants de cette région espagnole qui jouit du statut de communauté autonome, tous ne sont pas certains de vouloir se séparer de Madrid. Une crise entre pouvoir madrilène et pouvoir barcelonais qui dépasse aussi les frontières espagnoles et inquiète l'Union européenne. Cyril Trépied, géographe, chercheur à l'Institut français de géopolitique, chargé de cours à l'Université Cergy-Pontoise. Il revient sur cette volonté d'indépendance que les Catalans tentent de concrétiser aujourd'hui et ses obstacles à l'échelle régionale, nationale et européenne.
Le mouvement indépendantiste a pris de l'ampleur et une visibilité internationale à la fin 2012, mais il est bien plus ancien. Le fait que des partis indépendantistes soient au gouvernement catalan en coalition, c'est le cas depuis fin 2003, dans le cadre d'un gouvernement dirigé par les socialistes catalans. Et plus largement, le mouvement indépendantiste s'est développé de manière discrète, sur la longue durée, dans des partis nationalistes ou pas, où cette aspiration existait avec d'autres aspirations pour l'avenir de la Catalogne. Ces dernières années, il y a eu la censure partielle du statut d'autonomie catalan en 2010. Il y a eu le référendum contraignant qui a eu lieu en Écosse le 18 septembre 2014 et avant l'accord d'Édimbourg par lequel le gouvernement central du Royaume-Uni et le gouvernement écossais s'engageaient solennellement à respecter l'issue du référendum, quelle qu'elle fût. Et puis, il y a aussi la faillite d'autres grandes forces politiques catalanes, comme les socialistes catalans, qui ont longtemps été la deuxième force politique en Catalogne. Et l'aspiration indépendantiste a pris de plus en plus de visibilité, avec l'idée que seuls les États peuvent peser, et par exemple au sein de l'Union européenne. Donc les partis qui se sont présentés avec cet objectif de l'indépendance, de plus en plus central dans leur programme, ont considéré qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Et en 2012, puis en 2015, lors des dernières élections au Parlement catalan, deux partis ont formé une coalition avec des personnalités pro-indépendantistes qui ont gagné les élections, même si elles ont été loin d'obtenir une majorité de voix. Ces deux formations ont eu besoin du soutien d'une autre indépendantiste d'extrême gauche qui contribue au degré de tension auquel on assiste aujourd'hui.
Pourtant, sur le fond, les Catalans ne sont pas tous d'accord avec l'indépendance de leur région. Quel est le projet réel qui est proposé derrière ce référendum ?
Longtemps, l'objectif de l'indépendance a été défendu comme un idéal, sans beaucoup de précision, effectivement, en insistant non pas sur ce qui pourrait être fait dans un État indépendant, mais sur tout ce qui ne fonctionnait pas dans la situation institutionnelle actuelle de communauté autonome au sein de l'État espagnol. Et tous les Catalans ne sont pas pro-indépendance. Les dernières élections au Parlement catalan l'ont rappelé, puisque c'est une formation clairement opposée au référendum et à l'indépendance elle-même, qui est arrivée en deuxième position avec 25 députés sur 135. Et les opposants à l'indépendance, même s'ils sont moins visibles, sont de plus en plus mobilisés, y compris dans les scrutins qui ne concernent que la Catalogne, comme justement ces élections au Parlement catalan. Mais il est plus facile d'avoir de la visibilité internationale lorsque, pour n'importe quelle question, on a une seule réponse. C'est le cas des indépendantistes et par définition, ce n'est pas le cas de ceux qui s'opposent à l'indépendance, qui, en fonction du problème envisagé, et ils sont nombreux et importants, ont différentes réponses, puisqu'ils considèrent que non, l'indépendance ne peut pas tout résoudre dans la vie des Catalans. Et la grande visibilité internationale, médiatique, des indépendantistes catalans est un objectif constamment recherché. et qui explique l'ampleur des manifestations indépendantistes, d'abord pour être visible du reste du monde et le rester, et ensuite pour convaincre les indécis, car il y en a encore dans la société catalane.
Alors l'organisation de ce référendum s'est compliquée ces derniers jours à coups d'opérations de police, d'arrestations, d'amendes. Madrid essaye d'empêcher ce scrutin qui est qualifié d'anticonstitutionnel. Qu'est-ce que ça révèle, cette stratégie dite répressive ?
Effectivement, il la qualifie de répressive, mais il faut quand même préciser que les arrestations de 14 aux responsables de l'administration catalane, les perquisitions et notamment la saisie de 9 millions de bulletins n'ont pas été exigées par Madrid, mais s'inscrivent dans le cadre d'une enquête judiciaire. Bon, qui donne effectivement l'image d'un État espagnol répressif, c'est évident, mais ce sont des décisions d'ordre judiciaire et pas exclusivement policier. Et ensuite, effectivement, le référendum est qualifié d'anticonstitutionnel par Madrid, mais il l'est également par une partie des Catalans qui ne veulent pas participer au référendum même en votant non, parce qu'ils ne reconnaissent pas le droit du gouvernement catalan d'organiser un référendum. Et de fait, le vote est inconstitutionnel. On en parle moins, et c'est exactement l'objectif du gouvernement catalan, qu'on en parle moins, que tout ce qui se passe en Catalogne soit vu, et vu du reste du monde, par le prisme de l'affrontement entre un peuple catalan supposément uni et entièrement acquis à la cause indépendantiste et une Espagne réduite à l'image d'État répressif et pas à l'image de 46 millions quelques de citoyens.
Alors justement, du point de vue du reste du monde, il y a le point de vue européen. Quel est l'impact de cette crise entre Barcelone et Madrid sur l'avenir de l'Europe ?
C'est un impact incertain. Tout d'abord, les institutions européennes ont pour principe de ne jamais s'insérer dans les querelles internes aux États membres. Néanmoins, bien évidemment, les institutions européennes regardent avec la plus grande attention ce qui se passe en Catalogne et une réelle inquiétude parce que l'Espagne et en son sein la Catalogne ont été moteurs dans la construction européenne dès 1986, voire quelques années avant. Et bien sûr, même si tous les mouvements autonomistes n'ont pas du tout les mêmes moyens, les mêmes forces politiques et de mobilisation que les indépendantistes catalans, flamands ou écossais, il est évident que ce qui se passe en Catalogne donne des idées à des mouvements existants au sein d'autres États membres. Il n'y a jamais eu de séparation d'un État membre avec le nouvel État désireux de rester au sein de l'Union européenne. Ce n'était pas le cas, bien évidemment, de l'Algérie en 1962, lorsqu'elle a obtenu l'indépendance. Donc c'est une situation inédite que les différents traités européens ne prévoient pas explicitement, mais les dispositions de ces textes qui se rapprochent le plus de la situation actuelle prévoit clairement que une région qui se séparerait d'un État membre devrait effectuer toute la procédure d'adhésion avec toute la longueur et l'incertitude qui la caractérise.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.